Bonsoir. Pour parler des Kampala, les délégués du gouvernement congolais et ceux du M23 ont examiné et élaboré mardi dernier 10 points parmi lesquels la libération des prisonniers du CNDP, la transformation du M23, ainsi que le retour et la réinstallation des réfugiés et des déplacés internes. Quelle analyse faire de l'évolution des pourparlers de Kampala et quelles sont ses chances d'aboutissement? Pour en parler, nous recevons Baudouin Amouli Kabarouza. Il est coordonnateur national de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Bonsoir, monsieur Baudouin Amouli Kabarouza.
Bonsoir.
Maître Jean-Paul Olumbulumbu, il est avocat et point focal de la coalition des partis politiques de l'opposition au Nord Kivu. Il est aussi vice-président du Parti libéral pour le développement PLD en sigle. Bonsoir, maître Jean-Paul Olumbulumbu.
Bonsoir.
Et Samuel Monga, il est analyste en questions internationales. Il s'intéresse aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Bonsoir Samuel Monga.
Bonsoir.
Enoch Chilenga Chibamba du Kasaï occidental, je pense que c'est le début du théâtre entre les rebelles et le gouvernement congolais. Il n'y aura pas de solution. Bienvenue à tous dans cette émission.
Pour participer à l'émission, appelez le 081 051 66 78 ou contactez-nous par SMS 081 051 57 78 ou par mail dec@radiocapi.net.
Les pourparlers de Kampala, nous en parlons encore ce soir avec la toute dernière rencontre entre la délégation du gouvernement avec à sa tête le ministre des Affaires étrangères Remo Tshibanda et côté rebelle du M23 avec le chef de sa délégation René Abandi. On écoute cet entretien que Samuel Kachak a eu avec Lievin Mbwinga qui revient de Kampala.
Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette dernière rencontre, Lievin Mbwinga?
En tout cas, au cours de cette première rencontre entre le gouvernement congolais et les délégués du M23 après le sommet des chefs d'État de la région le 5 septembre dernier, le point relatif à l'ordre du jour, notamment les 10 points encore en discussion entre les deux parties, ont été examinés et adoptés. Il s'agit entre autres de la libération des prisonniers, de la transformation du M23, du retour et de la réinstallation de réfugiés des déplacés internes, des biens expropriés par le rebelle, de la réconciliation nationale et de la justice, de la mise en œuvre des conclusions de la revue de l'accord de paix du 23 mars 2009 et du mécanisme de mise en œuvre du suivi évolution. Et le ministre ougandais de la Défense et facilitateur Crispus Kiyonga a déclaré à cette occasion qu'en 9 mois de travaux, il y a une grande évolution.
Et cette reprise des travaux vont prendre combien de temps, Lievin?
En tout cas, rien n'a été précisé sur cette question, mais le facilitateur a souhaité qu'un délai soit rapidement trouvé entre les deux parties en vue de conclure les travaux.
Lievin Mbwinga, est-ce que vous vous attendiez à cette dernière rencontre entre les deux parties?
Pour être honnête, Kachak, pas du tout. D'abord, cela faisait près de 5 mois depuis que les deux délégations ne se sont plus mises autour d'une table. Les parties avaient du mal à accorder les points de vue. Une partie accusant même l'autre de tenir de propos discourtois sur Internet. Et vendredi dernier, au cours d'une interview que le chef de la délégation gouvernementale au pourparlers de Kampala, François Mwamba, nous a accordé, il a regretté le fait que la facilitation n'arrive toujours pas à prêter les documents et que ses assises tirent toujours en longueur.
Et donc, c'était une surprise pour vous, journaliste?
Absolument, Kachak. Cette réunion est intervenue 2 jours seulement après la diffusion de l'interview de François Mwamba sur nos antennes. Nous, les journalistes, avons d'ailleurs presque été pris au dépourvu au moment où on savait que le chargé de suivi de l'accord d'Addis Abeba était rentré à Kinshasa pour préparer son voyage de New York où il doit participer à la réunion du Conseil de sécurité le 22 septembre prochain. Surpris, nous l'avons vu à Kampala.
Et que pense l'opinion congolaise sur place à Kampala, Lievin Mbwinga?
En tout cas, Kachak, la plupart des Congolais interrogés sur place n'y croient plus tellement et réfléchissent plutôt par rapport aux concertations nationales à Kinshasa.
Je vous remercie, Lievin Mbwinga.
Ah, c'est moi qui vous dis merci.
Merci Lievin Mbwinga et Samuel Kachak, Baudouin Amouli Kabarouza. Je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Et comment analysez-vous l'évolution de ces pourparlers de Kampala?
Merci beaucoup pour la question. D'abord, je me réjouis que les pourparlers de Kampala ont démarré. Il faut savoir que ces pourparlers se déroulent maintenant dans les limites des exigences qui ont été faites par les chefs d'État au sommet du 5 septembre. Les chefs d'État ont demandé que les pourparlers, ce dialogue, se tienne en 14 jours. Donc le délai est bien fixé. Et il appartient, n'est-ce pas, à son Excellence le ministre de la Défense du Rwanda, de l'Ouganda, qui est modérateur, de pouvoir limiter le débat dans les 14 jours.
Oui, ça fait, ils ont consommé 7 jours, une semaine.
Oui, il y a encore une semaine, donc ils doivent absolument terminer dans les délais, parce que ça, c'était une décision des chefs d'État.
Voilà. Finalement, les 10 points qui vont faire l'objet des discussions sont connus. Prenons les points sur la transformation du M23. On dit transformation du M23, mais on ne précise pas en quoi il se transforme.
Nous allons attendre les décisions qui vont être prises là-bas, enfin les recommandations qui vont être prises. Mais pour le gouvernement congolais, il faut absolument que le M23 puisse se dissoudre. Le M23 n'est pas reconnu comme un parti politique ni un mouvement politique. On sait que ce sont des mutins qui se sont rebellés dans l'armée congolaise qui ont créé le M23. Le M23 lui-même, mouvement de 23, représente quoi? Ça fait allusion à l'accord du...
Pourquoi ne pas dire carrément dissolution du M23 au lieu de parler de la transformation du M23?
Ben, c'est ce que nous voulons. Nous voulons absolument que ce mouvement disparaisse. Il n'a pas de raison.
Nous avons une réaction, Willy Eloua de Mbandaka à l'Équateur, qui dit « Transformer le M23, c'est bien, mais que deviendront les autorités politiques du mouvement M23 après cette transformation ?»
Eh bien, les autorités politiques peuvent solliciter du travail dans les institutions gouvernementales, non, au niveau de la province, au niveau national, ils vont solliciter du travail.
Et donc, il y aura réintégration des éléments M23, en fait, des politiques
tout,
M23.
Tout au moins qu'on arrive à un accord, ils deviendront des citoyens, ils peuvent demander du travail dans les institutions provinciales ou nationales de la République. Donc ça, c'est... Nous attendons ce qui va en sortir. Les militaires vont suivre un processus qui sera également déterminé par le commandement de l'armée, par le gouvernement. Donc le processus va être également déterminé.
Monsieur Oudouin Amoulikabarouza, l'autre question, c'est le retour et la réinstallation des réfugiés et des déplacés internes. Et comment comptez-vous gérer cette question?
Il y a deux aspects dans cela. En ce qui concerne les réfugiés, il y a deux types de réfugiés. Il y a des réfugiés qui étaient au Rwanda depuis longtemps et pour lesquels il y a un processus qui était en route déjà. C'est la tripartite Rwanda, RDC et le RCR. Ce processus était en cours. Il y a eu déjà des réunions à Kinshasa, à Kigali, etc., pour préparer le retour de ces réfugiés-là. Donc ce point-là n'est pas un problème, puisque le processus est en cours et cela peut se conclure assez rapidement, aussitôt que la paix est là. Donc il n'y a pas de problème. Deuxième aspect, c'est les réfugiés qui sont sortis récemment du pays à la suite des affrontements avec le M23. Ces réfugiés, il y en a des milliers qui sont en Ouganda, qui sont dans des camps, qui sont suivis par les organismes internationaux, ainsi que le HCR, etc. Donc, aussitôt que les conditions de paix sont revenues, le processus de leur retour va être mis en œuvre. Ils vont rentrer dans leur village. S'agissant des déplacés internes, il y a également des milliers, si pas des millions de déplacés internes qui souffrent, qui errent dans ce coin-là, qui sont dans les environs dans la périphérie de Goma et d'autres qui sont dans des familles, que ce soit dans les collectivités périphériques de Goma ou dans les autres territoires comme Massissi, etc. Tout un processus également va être amorcé pour que ces gens puissent rentrer chez eux. Donc cela ne va pas se faire en un jour, mais il faut absolument qu'on trouve un accord rapidement pour que ces gens-là... Vous savez, le total de déplacés internes au Nord Kivu est incroyable. Il est extrêmement élevé. Et les gens ont besoin de rentrer chez eux pour s'occuper de leurs activités.
Il y a une certaine opinion qui considère cette question du retour des réfugiés comme étant une question très complexe. Et surtout si elle n'est pas bien gérée.
Je ne crois pas. Je pense que à l'heure actuelle la question des réfugiés se trouvant dans des camps au Rwanda, qui sont des réfugiés essentiellement de la communauté Tutsi. Je crois que ça, c'est vraiment bien pris en charge à l'heure actuelle, dans un processus bien structuré, bien organisé. Ça devrait pouvoir aller. La question, c'est leur intégration dans leur milieu d'origine. D'abord, combien ils sont, qu'on puisse les identifier pour qu'il n'y ait pas de vrais faux réfugiés parmi eux, il ne faut pas que ce soit des personnes qui profitent du fait des réfugiés de cette communauté pour qu'ils viennent s'infiltrer dans le pays sans papier, sans quoi, et qu'ils deviennent un problème pour tout le monde. Ça, c'est le problème. Et donc, je crois que tout ce processus est en cours avec le HCR, avec le gouvernement, pour que ces gens-là rentrent chez eux. En ce qui concerne les autres réfugiés qui sont rentrés récemment, je crois que ce n'est pas un très grand problème.
Il y a aussi le point sur la libération des prisonniers CNDP. Et à cet effet, on va écouter, à ces propos, on va écouter la position du gouvernement congolais sur cette question dans cet entretien que Innocent Olenga a eu avec le ministre Lambert Mende.
Ces personnes ainsi listées ont participé pour la plupart à plus d'une mutinerie ou mouvement insurrectionnel. Ce sont des récidivistes. La plupart d'entre elles ont été, avant leurs activités, au sein du M23 ou auparavant le CNDP ou les deux à la fois. D'autres encore ont été actifs dans l'UPC qui, comme vous le savez, avait sévi en Ituri ou dans quelques autres groupes armés actifs à un moment donné au Kivu et dans le district de l'Ituri. Cette liste établie par notre gouvernement met en outre en lumière quelques 8 cas de fraude à la nationalité sur les 1700 dans le chef de quelques activistes du M23 jouissant d'une nationalité étrangère. Certains ayant même appartenu à des forces armées régulières étrangères, alors que la loi congolaise consacre jusqu'à ce jour le principe de la nationalité unique et exclusive. Il s'agit de cas de fraude à la nationalité.
Monsieur Baudouin Amouli Kabarouza, il y a une liste plutôt des non-éligibles au bénéfice d'une loi d'amnistie ou à l'intégration au sein des FRDC.
Oui, bon, je ne suis pas tout à fait informé des détails, n'est-ce pas, des procédures qui sont dans l'armée à l'heure actuelle. Je pense effectivement que dans tous les cas, aussitôt qu'un accord est trouvé au niveau de Kampala, il y aura tout un processus administratif qui permettra de connaître le nombre des éléments composant le M23 et le processus décidé leur sera appliqué. Donc, est-ce qu'il existe des listes actuellement? Ça, je ne peux pas vous le dire. Ça, je crois que c'est des informations qui sont au niveau des autorités de l'armée. Ça, je ne sais rien dire pour le moment.
Merci, Maître Jean-Paul Lumbulumbu. Vous êtes avocat et point focal de la coalition des partis politiques de l'opposition au Nord Kivu. Vous êtes aussi vice-président du Parti libéral pour le développement PLD en sigle. Comment vous analysez l'évolution de ces pourparlers de Kampala?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Je voudrais, pour commencer, saluer mon co-débatteur, monsieur Baudouin Kabarouza, avec qui j'ai eu le privilège de partager encore le plateau de la radio Okapi. C'était le 8 août 2013, alors qu'il venait de se tenir à Kampala un sommet sur la question de la région des Grands Lacs. Et le 9, nous avons débattu également sur la question de Kampala. Nous avons donné notre point de vue après avoir été observateurs de manière officielle du premier sommet de Kampala. Nous avons dit que de Kampala, il sortira une souris. Cela fait pratiquement une année et plus de 10 jours que nous observons l'évolution de la situation. Mais au stade actuel, nous ne sommes pas en mesure de nous dédire. Par contre, nous sommes en train de constater que les faits tels qu'ils se déroulent sont en train de nous donner raison. En fait, mais lorsque, par exemple, le mouvement du 23 mars réclame le retour des réfugiés et le retour des personnes déplacées, je suis tout à fait d'accord lorsque il faut dire que la question du rapatriement des réfugiés ainsi que le retour des personnes déplacées internes est une question très, très complexe. Pourquoi? Parce que, ben, écoutez, le retour des réfugiés ne se décrète pas. Les moments propices de retour des réfugiés peuvent se constater lorsque les conditions de retour dans les zones de retour, les zones identifiées de retour, se trouve être bien réuni. Il me semble que même sur le plan international, on ne peut pas autoriser pour un réfugié le retour dans une zone non encore sécurisée. Le retour dans une zone ne contenant pas d'infrastructure capable d'accueillir le réfugié. Le retour dans une zone n'étant pas en mesure d'offrir de moyens vitaux pour les réfugiés, cela n'est pas permis sur le plan international. Mais je dois faire constater une chose, c'est que le 23 mars 2009, lorsque le CNDP signait l'accord de paix du 23 mars 2009, en cet accord, il était également demandé que le gouvernement, ensemble avec ses partenaires, notamment le HCR, puisse procéder au processus de rapatriement de réfugiés. Je dois reconnaître que, de la part du gouvernement, il s'était développé déjà une certaine volonté d'amorcer les processus, parce que c'est tout un processus. Et je sais que du côté même de la société civile, un certain nombre d'organisations qui étaient déployées dans les zones de retour, notamment le territoire de Rutshuru, le territoire de Masisi, des organisations de la société civile qui étaient déployées pour sensibiliser la population afin de préparer le retour des réfugiés. Après ça, nous avons connu ce qu'on connaît, on appelle le STAREC, avec ce qu'on appelle le CLPC, Comité Local de Pacification, dont l'objectif c'était de préparer psychologiquement, moralement, les populations de retour et Masisi au retour des réfugiés. Mais l'on peut se poser la question aujourd'hui, quand est-ce que ces initiatives du gouvernement ont été stoppées? Évidemment, c'est à cause de l'occupation de territoires ou des zones de retour par les M23. Donc aujourd'hui, lorsque les M23 demandent le rapatriement de réfugiés, ainsi que le retour de personnes déplacées, je me dis que les M23 demandent une chose et son contraire à la fois. L'on ne peut pas décréter le retour des réfugiés et le retour des personnes déplacées alors que les conditions de retour ne se trouvent pas être réunies, encore que, à mon avis, c'est le M23 qui est à la base de ces blocages du processus de rapatriement de réfugiés ainsi que le processus de retour des personnes déplacées.
Monsieur Lumumba,
par rapport à la question, oui, par rapport à la question de la transformation du M23, il n'est d'aucun doute qu'il faut s'attendre à ce que lorsque le M23 demande sa transformation, de toute évidence, le M23 va demander à être un parti politique. Mais nous allons revivre le même cycle comme celui de 2009 lorsque le CNDP avait demandé de devenir un mouvement politique. Le gouvernement a fait sortir un arrêté reconnaissant le CNDP comme un parti politique. Le CNDP a aujourd'hui un sénateur au Sénat à Kinshasa. Risque d'être le même si que le gouvernement n'aura pas résolu le problème qui est la base de la sécurité dans notre pays. Parce que nous sommes d'avis que le pourparler de Kampala, que nous avons découragé au gouvernement depuis très longtemps, ces pourparlers ne vont apporter aucune solution à la crise qui secoue l'Est de la République démocratique du Congo. Nous avons toujours soutenu que concevoir ou percevoir le M23 comme étant à la base de la crise sécuritaire à l'Est, c'est avoir une perception limitée de cette crise parce qu'il n'y a que le M23. Nous avons d'autres groupes armés, il y en a près d'une quarantaine maintenant. Nous avons dans les Walikas, dans les Massifs, Tcheka, Janvier, La Fontaine et tant d'autres. Ce sont des problèmes également que le gouvernement doit tenir en compte. Donc, résoudre les problèmes du M23 n'aura pas été une solution à la crise sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo. Oui.
Il y a Matumaini Franklin de Bukavu, Sud-Kivu, qui dit en transformant le M23, on les retire de la liste des forces négatives.
Bon, écoutez, l'on a transformé le CNDP, mais ça n'a pas appelé le CNDP. On l'a retiré de la groupe de lutte de forces négatives. Ça n'a pas empêché au même CNDP de se mêler aujourd'hui à M23. Donc, nous pensons que transformer aujourd'hui le CNDP, le M23, en quel mouvement que ce soit, n'aura pas été une solution. Au contraire, nous aurons créé plus de problèmes encore pour la progéniture. Et je pense que ça, ce n'est pas une solution envisageable. Mais également, par rapport à la question de libération de prisonniers, c'est vrai, je viens de suivre le ministre Lambert Mende. C'est vrai qu'il existe une liste de personnes qui sont arrêtées, soit parce qu'en connivence avec les M23, mais il faut reconnaître que sur cette liste-là, actuellement j'interviens, là je suis dans la ville de Béni, mais à Goma nous sommes en train d'assister à un phénomène Il suffit d'avoir un petit conflit avec les voisins, vous êtes taxé de M23, ils donnent l'information proche de M23, et beaucoup de personnes sont amenées à Kinshasa comme ça. Nous devons demander également au gouvernement de prendre ses responsabilités par rapport à cette question.
Merci.
Donc la libération des prisonniers, elle devrait être examinée, mais aussi l'on ne doit pas continuer à hypothéquer la justice au nom de la paix. Il faudrait que les victimes soient punies.
Merci Maître Samuel Monga. Je rappelle que vous êtes analyste en questions internationales et vous vous intéressez aux problèmes géostratégiques et géopolitiques africains. Une certaine opinion estime que Kampala n'évolue pas.
D'abord, merci pour l'invitation. Je voudrais saisir l'opportunité pour saluer rapidement les deux co-débatteurs, Monsieur Amouli et Monsieur Maître Lumbulumbu, dont la connaissance prolixe m'a assez éclairé sur deux ou trois petites questions. J'étais curieux, en fait, d'observer l'attitude du M23 lors de ces pourparlers. En sachant que certains paramètres avaient changé sur le terrain, notamment. On sait qu'il y a une brigade de l'ONU, une brigade interventionniste avec un mandat fort, et puis les FARDC sur terrain qui se sont ressaisis et qui, de fait, ont conduit le M23 dans une position beaucoup plus, apparemment plus fragile. Donc j'étais curieux de voir comment le M23 allait se comporter. Alors en termes de stratégie, comparativement à ce qu'il nous a proposé jusqu'à aujourd'hui, dans le fond, il n'y a pas vraiment de vraie révolution. Ce sont les mêmes mécanismes stratégiques, j'y reviendrai. Mais simplement, je note un élément assez important, c'est que on a finalement l'impression que le paradigme de puissance a laissé place à l'autre paradigme qui est celui de la négociation. Et c'est très important d'en parler. Pourquoi ? Parce que la brigade d'intervention des Nations Unies a été l'aboutissement d'une intensité diplomatique assez forte, non seulement de notre pays, mais aussi de la communauté internationale elle-même. On a l'impression, c'est ce que peut-être certains observateurs peuvent voir, que finalement on a tendance à privilégier plutôt l'espace de négociation. Et ce schéma-là, me semble-t-il, pourrait être le schéma auquel le M23 s'attend le plus. Il vaut mieux évidemment s'inscrire dans une logique de négociation et de palabre que de subir les bombardements et les canons d'une armée requinquée et de la force internationale. Ce faisant, ça lui offre une opportunité de mettre en exergue deux grandes stratégies bien développées jusqu'à aujourd'hui, notamment gagner du temps. Donc beaucoup de manœuvres dilatoires, des arguments qui sont contradictoires, le maître en a relevé tout à l'heure, des arguments qui ressemblent beaucoup plus à des alibis. Mais enfin, ce qui compte, c'est gagner du temps, mais aussi, assez paradoxalement, de se poser...
Gagner du temps, pourquoi ? Pour se réorganiser ?
Pourquoi pas se réorganiser, mais surtout pousser à l'exaspération. On sait que dès qu'on arrive à une certaine exaspération, eh bien, les uns et les autres peuvent aboutir à des conclusions qui ne sont pas forcément acquises dans les meilleures conditions. Et on s'imagine que c'est une stratégie. Donc en perdant du temps, en essayant de tourner en rond finalement, et surtout qu'on sait qu'il y a un délai assez contraignant de 14 jours, encore que je doute que les 10 points relevés et sur lesquels les partis semblent avoir donné leur accord pour débattre, que ces 10 points soient épuisés dans la semaine qui vient.
Samuel Monga, il y a le gouvernement qui vient d'établir une liste des gens non éligibles à l'amnistie. Votre analyse ?
Vous savez, le problème, à mon avis, ne se pose pas uniquement sur un point de détail comme celui-là. Je souhaiterais avoir une vision beaucoup plus large. Vous savez, le M23 a développé une stratégie visant finalement à se positionner non pas comme étant partie du problème, mais plutôt comme étant partie de la solution. Et ça, assez paradoxalement, bien que je ne partage pas du tout le point de vue du M23, ça relève d'une forme de, je ne sais pas si on peut appeler ça de génie, mais enfin, une stratégie qui s'avère assez intelligente, parce que on sait que le M23 a déstabilisé l'Est. On sait que c'est à cause du M23 qu'il y a notamment des déplacements internes. On sait que c'est à cause du M23 que, fatalement, il y a une crise humanitaire, qu'il y a une violation flagrante du droit international humanitaire. Mais c'est curieusement, avec le même M23, que nous sommes, gouvernement congolais, communauté internationale, en train de discuter sur une issue politique. S'agissant plus particulièrement de cette question de liste de prisonniers, je crois que le gouvernement s'est exprimé, et il ne m'appartient pas de commenter ce point de vue-là, mais je me dis encore une fois qu'il est très, très délicat de tirer des conclusions de manière hâtive. La vraie substance d'une négociation, c'est son rapport final. Et nous sommes techniquement à 7 jours de cette conclusion, apparemment. Bon, on verra ce que ça va donner.
Bon, il y a une autre question sur le retour des réfugiés. Comment vous percevez cette question? Maître Jean-Paul Lumbulumbu affirme que le retour des réfugiés ne se décrète pas. Hein. Il faut que les conditions soient d'abord réunies pour que l'on puisse envisager ces retours-là.
Mais bien sûr, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, c'est une manœuvre dilatoire. Les retours de réfugiés ne peuvent pas s'effectuer en une semaine. C'est quelque chose, c'est un processus, ça prend du temps. Ça va permettre de perdre du temps. Encore une fois, on voit là derrière toutes les contradictions de fond de l'argumentaire du M23. On s'inquiète du mouvement interne de déplacement des réfugiés, alors que on sait pertinemment bien que pour avoir pris les armes, le M23 a constitué un point de déstabilisation. Et puis, je vais aller beaucoup plus loin. Si l'on part du principe que le M23 est une excroissance de visée expansionniste de certains pays voisins, je serais étonné qu'il s'émeuve du retour de certains réfugiés et qu'il ne s'inquiète pas de la présence de plusieurs réfugiés rwandais qui sont ici depuis plusieurs années. Et cela m'interpelle.
Merci, Baudouin Amouli Kabarouza. Maître Lumbulumbu l'a dit, les retours des réfugiés, c'est pas une question qui ne se décrète pas. Hein. Les conditions doivent être d'abord réunies pour qu'on envisage ces retours. Pensez-vous que les conditions sont réunies actuellement?
Oh, évidemment, les conditions ne sont pas encore réunies. Et je me réjouis que mon frère et ami Lumbulumbu puisse dégager très clairement, je dirais, le processus lui-même du retour des réfugiés. Dans cette partie, les conditions ne sont pas encore réunies.
Quand est-ce qu'elles seront
réunies? Bien, je crois que la première chose, c'est que le M23 a déposé les armes. Une fois que le M23 dépose les armes et qu'il est clair que la guerre se termine dans cette partie, il y aura du travail de l'armée, de la police pour garantir que la sécurité est revenue dans le milieu avant que effectivement les HCR et le gouvernement de la République puissent pouvoir dérouler tous les protocoles de retour des réfugiés.
Donc, on ne va pas accuser le gouvernement congolais des manœuvres dilatoires.
En ce qui concerne les réfugiés, absolument
voilà,
pas.
Réfugiés.
Absolument pas. Le gouvernement congolais ne veut même pas qu'un réfugié congolais passe un jour de plus sur un territoire étranger. Je crois que pour le gouvernement, le processus doit se faire assez rapidement. Et je pense que, justement, à partir du moment où tout s'arrête et que l'armée, la police peuvent retourner dans les milieux pour garantir que les gens peuvent rentrer, je crois que ça peut se faire très rapidement. Le processus peut aller vite. D'ailleurs, même les gens ne vont pas attendre. Les gens vont commencer à revenir par eux-mêmes parce que les gens rentrent chez eux, dans leur maison, dans leur case, dans leur village. Donc les gens ne vont pas attendre. Ils vont rentrer assez rapidement. Ce ne sont pas des réfugiés comme ce que j'ai vu dans d'autres parties de notre sous-région qui ont fait des années et des années à l'extérieur. Non, ils sont partis il y a quelque temps, donc ils peuvent rentrer récupérer leur maison, leur terre assez rapidement.
Baudouin Amouli Kabarouza, même si cela n'est pas repris sur la liste, le M23 exigerait aussi une zone tampon autour des Rutshuru.
Cela n'est pas acceptable. Nous l'avons dit, nous l'avons redit à Kampala. Ceci est totalement à exclure. Il n'est pas possible d'envisager une zone tampon. Une zone tampon, ça veut dire quoi? Ça sert à rien. Non. Le gouvernement doit reprendre le contrôle de l'ensemble du territoire immédiatement. On n'a pas à attendre. Il n'y a pas de zone tampon à faire. Qui va être dans la zone tampon pour garantir que... Non. Ce concept-là n'est pas envisageable pour le gouvernement de la République et ne peut pas être envisageable pour les Nations Unies. Donc c'est impossible. Donc cela n'a pas été accepté. C'est encore, comme on dit ici, des manœuvres dilatoires et ça ne peut pas être acceptable.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, nous allons prendre pour vous cette question qui vient de Goma au Nord Kivu.
Thierry Machagiro depuis Goma, Nord Kivu. Le M23 doit arrêter de distraire le gouvernement congolais en faisant semblant de vouloir d'un côté en finir avec la guerre et d'autre côté préparer une autre guerre. Surtout avec les récents renforcements signalés ces derniers temps sur le terrain. Le gouvernement devra faire attention pour ne pas être piégé dans les accords avec ces rebelles.
Maître Jean-Paul Lumbulumbu, le gouvernement ne doit pas dormir sur ses lauriers.
Bon, évidemment, je partage totalement le point de vue de cet auditeur et je fais de son point de vue le mien. Mais seulement, je me dis, mais écoutez, la distraction, si elle en est une, elle n'en est pas seulement adressée au gouvernement, c'est le peuple congolais qui souffrirait de cette distraction où le gouvernement se laisserait faire. Nous sommes de ceux-là qui avons totalement découragé le gouvernement à poursuivre le pourparlers de Kampala pour des raisons évidentes. Je pense que l'histoire est en train de nous donner raison aujourd'hui. Il faut dire que pendant que l'M23 essaie de monter les enchères en demandant des choses qui ne peuvent pas être demandées, en qu'il ne revient pas à un mouvement rebelle, à mon avis, de demander à un gouvernement de pouvoir rapatrier ses concitoyens, c'est un pouvoir qui revient de droit à un gouvernement. Et je pense qu'il s'agit tout simplement quelque part d'une façon de jouer à la diversion, parce que lorsque vous essayez de contrôler la situation sur le terrain, les informations à notre possession qui doivent être vérifier, je le souligne, renseigne qu'il y aurait renforcement de l'arsenal militaire du M23 dans un certain nombre de contrées aux alentours de Kibumba. Pour quel objectif? On ne sait pas. Je voudrais en profiter pour inviter le gouvernement à déployer ses circuits de sécurité, à vérifier ses informations, parce qu'en même temps que les M23 seraient en train de les distraire sur le plan des revendications par rapport à ce qui se passe à Kampala, en même temps, il serait en train de se réorganiser pour essayer de voir comment, tout en demandant des choses qu'on ne peut pas demander, il essaie de monter des enchères, mais en même temps, sur le terrain, il essaie de se consolider. Donc, je pense totalement le point de vue de cet auditeur, et je pense qu'il appartient au gouvernement de pouvoir assumer ses responsabilités et tenir compte de toutes ces informations qui lui sont fournies par nos concitoyens.
Merci, Samuel Monga. Peut-on espérer que le CNDP pourra un jour lâcher du lest, faire des concessions par rapport à certaines revendications, c'est comme la zone tampon autour des Rutshuru, la neutralisation des FDLR?
Vous parlez bien du M23, pas du CNDP?
Non, je parle du M23.
Ah, ok, parfait. Voilà. Écoutez, tout à l'heure, j'ai commencé mon intervention en parlant du conflit ou de l'option entre les deux paradigmes, celui de la puissance ou celui de la négociation. Moi, je pense que une opportunité s'offre encore à notre diplomatie de mieux consolider davantage sa stratégie à deux niveaux. D'abord, de pouvoir continuer à de maintenir la pression sur les vraies forces qu'il y a derrière le M23. Et il faut se servir de ces espaces d'échanges internationaux pour pouvoir faire entendre notre voix. On sait aujourd'hui que le M23 n'est que une excroissance d'une certaine visée de pays voisins. Cela est dit par le gouvernement congolais, mais cela est aussi répercuté indirectement, parfois clairement, par la communauté internationale. Je pense aussi qu'il est important de maintenir la pression militaire, c'est-à-dire sur terrain. Il faut que cette brigade d'intervention puisse aller jusqu'au bout de sa mission, qui, on s'en souvient, au terme de l'accord signé en février 2013 consiste à éradiquer les forces négatives. Et il ne faudrait pas que cette force ait davantage l'air d'une force de dissuasion plutôt que d'une force d'éradication. Ça, c'est très important. Il va de soi que si, sur le plan militaire, le M23 se trouve en situation de fragilité, et que si, sur le plan militaire, nous sommes beaucoup plus forts, ça a une projection directe sur les négociations. Et que, fatalement, le M23 se situe dans une position beaucoup plus à même de lâcher du lest. Mais jusque-là, on a l'impression que les quelques rafales des dernières semaines n'ont pas réussi à l'en dissuader.
Merci. Ouais. Merci. Deuxième partie de cette émission, quelles sont les chances d'aboutissement pour parler des Kampala, Baudouin Moïkabarouza, je rappelle que vous êtes coordonnateur national de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Quels sont les atouts qui peuvent faire que ces pourparlers de Kampala puissent aboutir?
Bon, d'abord, le processus est en cours. C'est un processus qui a été décidé par les chefs d'État des pays de la région des Grands Lacs. La plupart de ces chefs d'État sont également signataires de l'accord d'Addis Abeba. Je crois que la conférence des Grands Lacs a une obligation de délivrer un résultat. Autrement, la conférence des Grands Lacs va perdre beaucoup de son image. Et donc, il y a une obligation là de réussir un processus. Et je crois que c'est une volonté que je sens dans les chefs d'État qui se réunissent régulièrement. N'oubliez pas qu'ils sont à leur 7e sommet des chefs d'État. Et je crois que ils l'ont exprimé. Ils ont même vu que le fait de durer trop longtemps et de ne pas trouver une solution, malheureusement, crée empire la situation régionale.
Oui,
au point qu'on peut arriver à une situation beaucoup plus grave. Donc il faut absolument résoudre le problème.
Deuxième, monsieur Audouin, oui. Vous voulez poursuivre, oui.
Deuxièmement, je crois que il y a la pression internationale. Il y a la SADC qu'il faut pas oublier. Je crois que la SADC est avec nous dans ce processus. Dès le début, la position de la SADC est absolument ferme et claire. Et je crois que, comme on l'a vu, plusieurs pays de la SADC ont décidé donc de pouvoir donner les troupes dans la brigade d'intervention.
Oui,
et
avons...
enfin, donc, je crois qu'il y a la communauté internationale elle-même, mm-hmm. Avec le processus piloté par Madame Robinson. Et je crois que, puisque ce processus-là a apporté sur la table les États-Unis, la Grande-Bretagne, la Belgique, la France, n'est-ce pas, qui sont des partenaires des autres pays de la région, pour qu'ensemble on trouve un résultat, avec les Nations Unies, avec la SADC. Je crois que tout ce monde-là est comptable pour les résultats que nous devons absolument avoir pour cette région.
On écoute, on écoute cette question qui vient de...
On doit arriver à une solution.
On écoute la question. Oui, la question qui vient de Sfax en Tunisie pour vous.
Patrick Aria, depuis la ville de Sfax en Tunisie. Pour moi, aujourd'hui, les dirigeants du M23 cherchent à se tirer d'affaire parce qu'ils ont réussi la mission qui leur a été donnée par le Rwanda et l'Ouganda, celle de déstabiliser l'Est du Congo. La solution durable, elle est politique et de négocier directement avec le Rwanda et l'Ouganda.
Ils pensent qu'il faut négocier avec le Rwanda et l'Ouganda, c'est ça la solution.
On ne peut pas ne pas échanger avec le Rwanda ou échanger avec l'Ouganda. Nous sommes partenaires ensemble dans plusieurs organisations et nous avons commencé justement par des contacts, par des échanges bilatéraux avec le Rwanda. Mais ces échanges-là se sont estompés à un moment. Mais je pense qu'avec les résultats aujourd'hui des sommets des chefs d'État, il est possible de reprendre les discussions. En ce qui concerne l'Ouganda, nous sommes en contact permanent avec l'Ouganda. Les contacts sont toujours en... comme je le dis, maintenant que que la crise est claire. Et maintenant qu'ils ont vu la force de la diplomatie de la RDC, qu'ils ont vu une bien meilleure organisation de notre armée, des résultats que notre armée commence à avoir, je crois que ces États sont bien obligés de réviser leurs agendas cachés, s'ils avaient des agendas cachés.
Merci, Maître Jean-Paul Lumulumbu. Je rappelle que vous êtes avocat et point focal de la coalition des partis politiques et de l'opposition au Nord Kivu. Quelles sont, selon vous, les chances de réussite de ces pourparlers de Kampala?
Nous n'avons jamais accordé une chance au pourparlers de Kampala. Cela fait plus d'une année que nous intervenons à partir de Kampala lorsque le premier sommet a eu lieu. Je me rappelle que j'avais encore discuté avec mon frère Baudin Kabarouz sur cette question et nous avions, pour ne pas dire que nous avions déjà prédit ce qui devrait arriver, nous n'avons jamais accordé une chance à ces pourparlers. Nous avons toujours estimé que les pourparlers, s'ils doivent avoir lieu, ils doivent avoir lieu en République démocratique du Congo. J'étais encore en train de le dire qu'on ne doit pas réduire la question sécuritaire à l'est du pays au M23. Non, ça c'est avoir une perception limitée de la crise. Nous pensons que le gouvernement doit s'assumer et mettre sur pied des mécanismes qui puissent permettre à toutes les filles, à tous les fils de notre pays, et particulièrement de la province du Nord Kivu, qui se trouve être martyrisée sur une même table. C'est la raison pour laquelle notre parti a accepté de soutenir l'idée de la coalition pour un vrai dialogue, le vrai dialogue qui sera organisé conformément à la résolution 2098, un dialogue sans exclusive, parce que vous allez même constater, monsieur le journaliste, qu'au niveau des concertations telles qu'organisées aujourd'hui à Kinshasa, le Nord Kivu, victime de toute cette insécurité, n'est pas suffisamment représenté, ce qui est inentendu grave, et à notre avis, contrairement au point de vue peut-être des ministres de l'information, nous pensons que sur ces dialogues-là, même les groupes armés, Tcheka, Janvier, les M23, La Fontaine, tous ces groupes armés doivent être formellement invités pour venir parler avec les autres et qu'on puisse savoir pourquoi est-ce qu'ils ont pris les armes contre la République. C'est ça pour nous la chance de sortie de cette crise, donc un vrai dialogue au niveau de la République démocratique.
Maître Jean-Paul Lumulumbu.
Avec l'accompagnement de la communauté internationale.
Maître Jean-Paul,
oui.
Nous sommes presque à la fin de l'émission, est-ce que vous pouvez conclure?
En termes de conclusion, je voudrais tout simplement appeler le gouvernement à jouer son rôle et à ne pas trahir encore une fois le peuple congolais comme cela a été fait avec la signature du 23 mars. Nous espérons que cette fois-ci, la solution qui sera prise par rapport à la crise de l'Est sera une solution globale et définitive pour que le Nord Kivu, le Sud Kivu, l'Est du pays respire la paix et rien que la paix.
Samuel Monga, analyste en question internationale, les chances que vous accordez pour parler de Kampala?
Écoutez, je peux parfaitement comprendre les frustrations des uns et des autres, en particulier des populations qui vivent au quotidien le drame de l'Est. Cela étant, il ne faut surtout pas mettre au placard la force des solutions politiques. Vous savez, il faut prendre la vraie mesure des enjeux. Le problème n'est pas uniquement national, il est sous-régional. Et il faut aller au-delà de nos intérêts les plus limités. Et dialoguer n'est jamais une forme de faiblesse. Ça peut aboutir à quelque chose d'intéressant.
Merci, je considère ça comme votre conclusion. Monsieur Baudouin Amouli Kabarouza, votre conclusion?
Je crois que il faut faire confiance dans le gouvernement. Nous sommes bien avancés. Le gouvernement a déjà eu plusieurs résultats. Et je crois que le gouvernement s'est bien organisé pour réussir cette partie. Je crois qu'il nous faut faire confiance au gouvernement. Je pense que le gouvernement ne peut rien faire sans le peuple. Il faut que le peuple congolais puisse s'impliquer. Il faut qu'il soit déterminé à défendre son territoire.
Et qu'il soit optimiste.
Et qu'il soit farouchement déterminé avec le gouvernement pour réussir cette affaire.
Merci. Merci, c'est la fin de cette émission. Mimi Kindou était à la technique et Samuel Kachak à la réalisation sous la supervision de Martin Sabou Djangwe. Devant ce micro, Guy Maté, merci et bonne suite de programme sur Radio Capi.